Si rien n'est fait, à partir du 13, les camionneurs artisans nous l'ont dit, ils seront pas capables de continuer puis ils vont arrêter ça.
Il y a du questionnement à avoir sur les changements climatiques.
Et on est content de voir la baleine, mais en même temps, on sait comment ça s'est terminé la dernière fois.
Bonsoir. La hausse du prix de l'essence fait mal à tout le monde. Le prix dépasse 2 $ le litre dans plusieurs régions du Québec et pourrait même continuer à grimper. Mais le diesel coûte encore plus cher. Puis pour ceux qu'on appelle les camionneurs artisans, qui sont des travailleurs autonomes, bien, c'est l'enfer. Leur situation a été le sujet de discussion aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ce sont ces camionneurs qui transportent le sable et le gravier pour les chantiers du ministère des Transports. Et ils le font actuellement à perte étant donné le coût du carburant. Simon Bourassa suit ce dossier à Québec. Bonsoir, Simon.
Bonsoir, Noémie.
Donc, les partis d'opposition ont fait vraiment front commun aujourd'hui. À leurs yeux, le gouvernement doit en faire plus pour compenser ces camionneurs en ce moment.
Oui, le gouvernement qui doit, selon eux, tendre l'oreille à la situation de ceux qu'on appelle les camionneurs artisans. Ils représentent 5200 travailleurs au Québec. Cela dit, d'entrée de jeu, ont des contrats avec le ministère des Transports, donc avec des ententes qui sont préexistantes, où le ministère les compense pour qu'ils puissent rembourser le carburant qu'ils utilisent pour leurs opérations. On s'entend que c'est au cœur de leur opération, là, d'avoir du carburant dans leur camion. Donc, les partis d'opposition qui se sont saisis de la question aujourd'hui, on les écoute.
Moi, je demande au gouvernement du Québec de s'asseoir avec ces gens-là, de trouver une manière de les compenser. C'est pas à ces travailleurs, travailleuses-là de récolter la facture de l'augmentation vertigineuse du prix de l'essence en ce moment.
L'épicerie augmente, l'inflation augmente et ils sont pas capables de joindre les deux bouts. Le gouvernement, le ministre, il a la responsabilité de trouver des solutions.
On va proposer une motion pour qu'il y ait un soutien financier à ces petites entreprises-là qui, sinon, vont se voir complètement brisées.
Puis Simon, l'Association des camionneurs artisans était de passage au Parlement aujourd'hui, puis leur président a parlé aux députés.
Oui, exactement. Puis ce que dit l'association, c'est que le coût d'entretien d'un camion, les camions qu'ils utilisent pour ce genre de tâches, bien, ça a augmenté de 30 % depuis 2018. La compensation présentement qui est offerte par le ministère des Transports, ça couvre quoi? 10 à 12 % de la hausse du prix du diesel actuellement. Donc, évidemment, pour eux, c'est trop peu. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que si les artisans disparaissent, bien, c'est les grosses compagnies de transport qui vont prendre le relais. Et là, le rapport de force va changer. Le ministère des Transports va payer beaucoup plus cher. Et bien, ce sont des fonds publics. Et c'est ce qui ne devrait pas arriver selon l'Association des camionneurs artisans. Je laisse entendre d'ailleurs leur président qui va bien vous résumer qu'est-ce que ça peut représenter là, très, très concrètement, cette hausse du prix du diesel.
Prenez par exemple un camionneur qui dépense 300 litres par jour. Puis il y en a que c'est 400, là, mais 300 litres par jour. Là, il est à 2,40, on va être bon joueur, on va dire 2 $. 600 $ par jour qu'il faut qu'il dépense, il faut qu'il supporte. Puis il n'est pas payé avec le ministère des Transports quand on travaille ces chantiers du MTQ. Il n'est pas payé avant 45 jours. Imaginez comment d'argent qu'il faut qu'il supporte sur une marge de crédit puis, ou sur une carte de crédit qui est déjà loadée parce que ça n'est plus le mois de mars qui est obligé de faire ça.
Ce que nous dit le ministère des Transports, Noémie, à ce sujet, c'est que bien, ils sont conscients de l'impact de la hausse du prix du carburant chez les prestataires de services comme les camionneurs artisans. Plusieurs discussions avec l'association dans les dernières semaines. On dit qu'on travaille très fort là, sur une nouvelle formule d'indexation qui va prendre en compte non seulement le prix vendant moyen du carburant, mais aussi la variation qu'on connaît depuis plusieurs semaines. Ce que disait aussi l'association, c'est que le mois de mars a coûté cher parce que il est tombé de la neige au mois de mars. Il a fallu épandre des abrasifs et du sel. Et ça, bien, ils l'ont fait à perte tout le mois de mars et presque jusqu'au début du mois d'avril.
Merci beaucoup, Simon, pour ce compte-rendu. À bientôt.
Au revoir.
Alors, est-ce que le coût de la vie pourrait s'imposer comme la question de l'urne, c'est-à-dire l'enjeu déterminant des prochaines élections provinciales? On va en discuter avec notre collaborateur Victor Henriquez. Bonsoir, Victor.
Bonsoir, Marie.
Tu es spécialiste en gestion de crise et en relations publiques. Le prix de l'essence, puis plus globalement, là, le coût de la vie, c'est une prise quand même intéressante pour les partis d'opposition à ce stade-ci.
C'est une prise intéressante. L'inflation, pas tant que ça, parce que le gouvernement n'a pas nécessairement de contrôle sur la question de l'inflation. Maintenant, comment est-ce qu'on va prendre en charge cette situation-là pour protéger le pouvoir d'achat des Québécois? Ça, ça va certainement être un enjeu de l'élection. On le sait, à ce moment-ci, les partis réclament au gouvernement d'intervenir. Il l'a fait depuis le début de l'année, on l'a vu dans le budget. D'ailleurs, c'est un peu particulier parce que les mêmes partis dénonçaient le fameux 500 $ pour les personnes qui faisaient 100 000 $ et moins.
Oui.
Donc, ce sera de voir comment le gouvernement va se positionner, notamment sur cet enjeu-là, mais je m'attends à des interventions rapides de la part du ministre des Transports.
Ah, OK. Parce que les partis d'opposition cherchent, j'oserais dire désespérément, un enjeu qui pourrait enfin égratigner le gouvernement caquiste, qui semble résister aux attaques sur tous les flancs. Si on regarde les sondages, il n'y a rien qui leur fait perdre leur vernis, là. Aux yeux des électeurs, on dirait.
On appelle ça du téflon. À l'époque, rappelez-vous, à l'époque de Jean Chrétien, on disait qu'il était l'homme politique téflon. Je pense qu'aujourd'hui, François Legault a un peu cette même particularité. Il n'y a rien qui colle à la CAQ en ce moment. On l'a vu avec les CHSLD, le cas d'Aaron.
Ouais.
Les partis d'opposition ont tenté de faire coller ce dossier-là au gouvernement. On n'a pas vu de reflet dans les sondages.
C'est ça.
On va essayer de le faire avec ce dossier-là.
C'est qu'il n'y a rien qui lui nuit.
C'est qu'il n'y a rien qui justifie qu'on défasse ce gouvernement dans les sondages à ce moment-ci. Aux yeux des Québécois, le gouvernement n'est pas parfait, mais ne semble pas avoir de sujet sur lequel on veut le changer. Et avant qu'un parti d'opposition s'impose comme étant une alternative au gouvernement, il faut que les gens veuillent changer de gouvernement, ce qui était quand même assez rare, disons-le, après un seul mandat, notamment un mandat comme celui-ci.
Donc, les gens semblent encore prêts à lui donner une autre chance. Mais c'est quand même intéressant parce que si on regarde en dehors des frontières du Québec, le coût de la vie, c'est devenu un enjeu important dans l'élection présidentielle française le mois dernier. Joe Biden en parle de plus en plus parce qu'il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent dans 6 mois. Aux États-Unis et qui pourrait l'affaiblir. Donc, on le voit là, que ce n'est pas juste au Québec, d'un point de vue électoral, ça marque les esprits.
C'est un élément essentiel parce qu'on vote sur deux éléments. Vous savez, au Québec, historiquement, on vote soit sur l'économie, soit sur la santé. On sait que la santé va être une discussion de l'élection, mais à un moment donné, ça fait une dizaine d'élections qu'on vote sur le sujet de la santé. L'économie est toujours essentielle. Les gouvernements ont besoin de montrer une force économique, des idées en termes d'économie pour protéger le pouvoir d'achat. C'est pas l'inflation qu'on doit attaquer. C'est le fait que les gens puissent continuer à consommer puis à vivre de façon décente. Là, en ce moment, les partis se ressemblent tous un peu sur leur position. On l'a vu, les partis d'opposition sont sortis de façon assez unanime aujourd'hui.
Ouais.
Pendant l'élection, on va voir que les idées vont se différencier. Et là, la question sera simple. Est-ce que les gens sont prêts à défaire le gouvernement caquiste sur cette question-là? À ce moment-ci, je n'en suis vraiment pas certain.
Mais il faut aussi être honnête. C'est pas un gouvernement d'une province au Canada qui a vraiment les outils pour lutter contre l'inflation dont les causes sont mondiales.
Exactement. La question, par exemple, c'est comme gouvernement, qu'est-ce que l'on fait pour permettre aux gens d'avoir un meilleur pouvoir d'achat? Est-ce qu'on baisse la TPS, par exemple? Est-ce qu'on baisse les impôts? Est-ce qu'on donne un 500 $ comme le premier ministre l'a fait? Moi, c'est ce qui m'a surpris de voir les partis d'opposition à l'époque critiquer le gouvernement pour ça. Parce qu'on savait que l'inflation allait entraîner des conséquences chez les citoyens. Et ça devenait une espèce de bouée de sauvetage du gouvernement. En la dénonçant, ils ont peut-être donné justement des arguments au premier ministre qui va certainement réutiliser leur position au moment du budget pendant les fameux débats électoraux au mois de septembre prochain.
Intéressant. Et que ça va être excitant, cette campagne-là. Merci beaucoup, Victor, d'avoir été avec nous.
Merci,
Denis. À bientôt. Le Bloc québécois estime qu'il est temps de mettre fin à la lecture d'une prière au début de chaque séance de la Chambre des communes à Ottawa et propose de remplacer cette coutume par un moment de réflexion. Le parti dit François Blanchet a déposé une motion en ce sens. Pour le Parti libéral et le NPD, cet enjeu n'est pas une priorité et les conservateurs se demandent pourquoi le Bloc s'est intéressé à cette question. Le vote aura lieu demain à la Chambre des communes. De nombreux défis attendent la chef du service de police de la Ville de Montréal par intérim, Sophie Roy, qui devient la première femme à diriger ce corps policier. Elle est entrée en poste il y a quelques jours à peine et elle a accordé aujourd'hui une longue entrevue à mon collègue Louis-Philippe Bourdeau. Bonsoir, Louis-Philippe.
Bonsoir, Noémie.
Alors, bien sûr, l'enjeu de la lutte à la violence par arme à feu, ça va faire partie de son mandat.
Et avec ça, bien, la lutte au trafic d'armes dans la métropole, on l'a bien compris aujourd'hui, c'est vraiment très haut dans sa liste des priorités de la nouvelle chef du SPVM, qui a quand même 34 ans d'expérience au sein du corps policier, qui était directrice adjointe aux enquêtes criminelles. Mais ce ne sera pas son seul défi. La liste est longue. Rétention de la main-d'œuvre, diversité au sein du corps policier, relations avec la communauté, avec le communautaire, l'après-pandémie. Bref, beaucoup de choses à faire et peu de temps pour réaliser sa vision. Parce qu'en théorie, la personne qui va occuper ce poste-là de manière permanente devrait arriver d'ici la fin de l'année. Mais selon elle, et j'y ai posé la question, est-ce que ça va l'empêcher d'agir? Bien, elle ne croit pas. Et aujourd'hui, elle était aussi assez remplie de fierté d'être la première femme à occuper ce poste. vous arrivez à ce poste alors qu'il y a ce qu'on peut appeler une flambée de violence. Êtes-vous d'accord avec le terme flambée de violence à Montréal?
En fait, où je suis en accord, c'est qu'effectivement, on a un enjeu en matière de violence armée sur l'île de Montréal. Là où je ne suis pas d'accord, c'est d'aller dire que la ville de Montréal n'est plus sécuritaire.
Il y a des adolescents qui ont été tués depuis un an. Est-ce qu'on vous a déjà dit, ça, c'est votre mandat principal?
Je suis rentrée en 88 avec un mandat qui était de protéger et servir. Aujourd'hui, je suis directrice du SPVM et mon mandat est protéger et servir. On va mettre toutes les actions possibles pour, évidemment, mettre un frein à cette violence armée-là.
Et dans ce contexte-là, les gens qui disent on devrait peut-être enlever de l'argent à la police et le redonner aux communautaires, aux intervenants qui connaissent les jeunes qui, des fois, ont encore peur de parler aux policiers, est-ce qu'en effet, ça peut être une solution, à votre avis?
Nous, où on va, c'est que oui, effectivement, les organismes communautaires ont besoin d'être financés justement pour participer à cette grande mission qui est la sécurité publique. Donc, je pense que notre personnel sont des professionnels, mais évidemment, ils ne peuvent pas réussir ça. Bien, pour l'instant, la police a besoin de toutes ses ressources, je pense, pour faire face à toutes les situations.
Est-ce qu'on s'attend à un été particulièrement, des fois les gens utilisent le terme chaud, particulièrement difficile pour le SPVM?
L'été nous amène des grandes festivités, des grandes activités. J'ai pas de boule de cristal pour prédire quelle sera la situation à l'été, mais une chose est sûre, c'est qu'on est prêt.
Est-ce que vous avez suffisamment d'effectifs? Il y a eu une vague de démissions. On vous avait promis 250 policiers. Il y en a qui partent à la retraite. Sentez-vous, vous avez suffisamment de policiers pour répondre à l'ampleur du problème?
Évidemment, on doit analyser la situation, puis on déplace nos effectifs en fonction des problématiques que l'on vit sur le territoire. Donc, cette année, on embauche 220 recrues, puis on pense avoir peut-être 200 policiers qui vont partir pour la retraite. Donc, nos ressources sont quand même suffisantes.
À la fin du mois d'avril, il y a eu cette vidéo d'une intervention policière avec un itinérant assez violente. Est-ce que ça vous surprend de voir encore des gestes comme ceux-là?
Je crois à un processus transparent, équitable et juste, donc pour ça. Mais il faut aussi remettre en perspective que plusieurs interventions sont faites avec des clientèles vulnérables. Nos policiers sont professionnels, sont engagés, sont à la recherche de solutions.
Le mot intérim, est-ce qu'il vous bloque dans le sens où vous allez avoir 8 mois, 12 mois, 14 mois? Si on veut faire des changements de structure, imposer une vision, est-ce que vous avez une petite crainte d'avoir cette limite-là du terme intérim?
Le terme intérim, pour moi, est ce qu'il est, un terme. Si des changements sont à faire, moi, je vise toujours l'efficience, je vise l'intégrité de mon service. Donc, s'il y a des changements à faire, je vais les faire.
On poursuit la discussion avec notre collaboratrice, la sociologue et criminologue Maria Mourani. Bonsoir, Maria.
Bonsoir.
Alors, on a entendu la chef du SPVM par intérim s'exprimer sur l'importance, sur la flambée de violence par arme à feu dans le Grand Montréal, hein, parce qu'à Laval, cet après-midi même, il y a encore eu une fusillade en plein jour. Un homme a été blessé. En fin de semaine, ouais, un homme est mort, toujours à Laval, après avoir été la cible de tir. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, Maria?
Bien, en fait, je vous dirais, habituellement, l'été, on a des flambées de violence. Dans les années, disons, dans les années antérieures, on a toujours constaté, l'été, le printemps, il y a toujours une augmentation des fusillades. Mais la particularité, c'est que depuis 2020, on constate qu'on a des conflits, hein, dans certains groupes criminels, que ce soit certains gangs, même dans certaines cliques mafieuses. On voit qu'il y a un conflit, des conflits plutôt qui perdurent depuis quand même l'automne 2020, disons, même un peu plus 2019. Alors, c'est sûr que selon, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on peut se douter que non seulement le printemps et l'été sera chaud, mais que potentiellement, on peut battre les records de 2020-2021.
Est-ce que la fin de la pandémie, la levée des mesures sanitaires, c'est aussi en cause dans la recrudescence de la violence à laquelle on assiste en ce moment?
Mais c'est un élément, mais qui n'est pas forcément bien identifié dans le sens des recherches. Ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on a des conflits à l'intérieur des groupes, et qu'on s'en retrouve avec une certaine promiscuité, hein, des individus, les bars, les restos, on s'attend à ce que ça chauffe un petit peu. On est un petit peu habitué à ça, mais c'est beaucoup les conflits. Puis en même temps, il ne faut pas oublier, on voit certains quartiers où il y a beaucoup plus de fusillades. On peut prédire que dans ces quartiers-là, on peut se douter que dans ces quartiers-là, il y a des conflits entre certains groupes criminels qui sont déjà établis sur les territoires. que ce soit dans les quartiers comme Laval, que ce soit Laval, que ce soit Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord. Mais à mon sens, le centre-ville aussi ne va pas être épargné là, par ces fusillades-là. Hein.
On parle du centre-ville, on parle de Laval, mais aussi de plus en plus, un peu plus loin, dans les couronnes nord, la couronne sud de Montréal, cette violence par arme à feu s'étend à ces nouvelles régions?
Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a conflit entre les groupes criminels, ils vont aller là où la cible est. Et on sait que, par exemple, sur la couronne nord, on a plusieurs zones, je nommerai pas les zones, mais il y a plusieurs zones où c'est les motards, les mafias, certains individus reliés aux gangs qui vivent là-bas. Donc, on va aller là où ils vivent. Je peux vous donner l'exemple, lorsqu'il y avait le conflit à l'intérieur de la mafia italienne, ben Joe Di Maolo, il s'est fait tirer chez lui à Blainville. Vous comprenez? Donc, au fond, ou par exemple à Terrebonne, il y a quelques semaines de ça, Terrebonne-Lachenay, on avait plusieurs centres, plusieurs boutiques, des magasins, des restaurants qui ont eu des cocktails Molotov. On sait que ça appartient à certaines cliques ou des relations liées à des cliques mafieuses. Donc ça, c'est ce qu'on peut observer sur le terrain. En même temps, les policiers sont prêts, qu'ils disent. J'écoutais tout à l'heure la chef du SPVM, donc ils sont prêts. Ils sont en recrutement. Moi, je pense qu'ils n'ont pas assez d'effectifs, même si la chef considère avoir tous les outils pour mener la lutte.
Ben, en tout cas, elle a certainement du pain sur la planche. Puis on va continuer de suivre cet été mouvementé qui s'annonce. Merci beaucoup, Maria Mourani, d'avoir été avec nous.
Au plaisir.
Au 76e jour de la guerre en Ukraine, on dénombre maintenant plus de 8 millions de citoyens ukrainiens déplacés à l'intérieur du pays depuis le début du conflit. Et si on ajoute ceux et celles qui ont fui le pays, bien, il y a presque 14 millions d'Ukrainiens qui ont dû quitter leur maison, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Et pendant ce temps, bien, les forces russes continuent d'attaquer, notamment dans le sud du pays. Sabrina Rivet nous résume les derniers développements. Bonsoir, Sabrina.
Salut, Noémie.
Parlons d'abord de l'est du pays, parce qu'on a appris en fin de journée qu'une quarantaine de corps ont été retrouvés dans un bâtiment bombardé dans la région de Kharkiv. Ça, c'est dans le nord-est.
Oui, exactement. Donc, on est dans la ville de Izium. Donc, on peut regarder ici sur la carte, tu l'as dit, c'est dans la région donc, de Kharkiv. On est près également des territoires du Donbass. Et ce qu'on a retrouvé, malheureusement, au cours des dernières heures, ce sont les corps de 44 civils qui étaient à l'intérieur, en fait, d'un bâtiment qui a été bombardé au mois de mars dernier. Alors, la ville d'Izium, qui était sous l'emprise russe, en fait, depuis le 1er avril dernier. Et malheureusement, bon, on a réalisé cette découverte, en fait, un petit peu plus tôt aujourd'hui. Il y a même les citoyens de la ville qui tentent de retirer les corps des décombres lorsqu'il n'y a pas de bombardement, parce que ça reste quand même que c'est une ville qui demeure fortement la cible des missiles russes. Et il y a même le parquet, en fait, de la région de Kharkiv qui a ouvert une enquête pour meurtre prémédité. Donc, on va pouvoir continuer à suivre ça.
Et si on retourne dans le sud du pays maintenant, la ville d'Odessa, ce très important port, a été la cible de bombardement la nuit dernière.
Et là, cette fois-ci, on parle d'une personne qui est décédée et de 5 personnes qui ont été blessées lors de bombardements. Il y a notamment un centre commercial qui a été la cible des missiles russes, également un entrepôt. Ça, c'est ce que nous a dit l'armée ukrainienne. Puis le maire d'Odessa a précisé que la zone touchée n'abritait pas d'infrastructures militaires, parce qu'on sait, souvent les Russes disent, bien, on va viser en fait des infrastructures militaires, encore une fois. Bien, ce n'était pas le cas. Et le bilan aurait pu même être encore plus grave, parce qu'il y avait un couvre-feu quand même qui a évité, en fait, qu'il y ait plus de décès pendant ces fameux bombardements pendant la nuit. Et justement, là-dessus, on va l'écouter, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé à des parlementaires de la Malte plus tôt aujourd'hui sur la situation à Odessa.
Російські літаки постійно скидують авіабомби та фосфорні бомби на ті будівлі, про які окупанти точно знають, що там немає ніяких військових, що там просто ховаються люди, звичайні, звичайні мирні українці, звичайні люди, як ви. C'est просто террор.
Sabrina, le premier ministre Justin Trudeau est de retour à Ottawa. Il est revenu sur son passage en Ukraine de la fin de semaine.
Ben oui, lui qui était dimanche du côté de la région de Kiev, là, du côté de Irpin, il a pu constater l'horreur. Et justement, aujourd'hui, il est revenu là-dessus. Il a dit qu'il a pu voir, en fait, vraiment de la résilience au niveau des Ukrainiens qui tentent de se battre, en fait, contre l'armée russe. Mais il a également vu la désolation. Il a dit que tout ça, c'est en raison du président russe Vladimir Poutine. Bon, également, il n'est pas le seul non plus à faire des visites surprises du côté de l'Ukraine aujourd'hui, eh bien, c'est la ministre des Affaires étrangères, en fait, de l'Allemagne qui s'est rendue du côté de l'Ukraine, Kiev exactement. Et je termine en te disant, Noémie, au niveau des États-Unis, il y a un vote qui doit avoir lieu d'ici la fin de la journée. On demande à ce que 40 milliards de dollars supplémentaires soient envoyés du côté de l'Ukraine pour tenter de combattre l'armée russe. Donc, le vote doit avoir lieu aujourd'hui, là, un petit peu plus tard. On va suivre ça.
Merci beaucoup, Sabrina.
Un plaisir.
Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, est prêt à ramener Donald Trump sur sa plateforme. L'analyse de notre collaborateur Yves Boisvert au retour. Donald Trump pourrait-il être de retour sur Twitter bientôt? Le milliardaire Elon Musk, qui a fait l'acquisition de Twitter le mois dernier, a déclaré aujourd'hui qu'il redonnerait ses accès à l'ancien président lorsque la transaction sera bouclée. Donald Trump avait été exclu à vie de la plateforme l'année dernière dans la foulée de l'insurrection au Capitole à Washington. Notre collaborateur Yves Boisvert se passionne pour ce dossier. Bonsoir, Yves!
Je trouve que c'est un peu léger, tu dis ça avec le sourire. Donald Trump pourrait revenir, ça n'a pas l'air de déranger
non,
du
Non, mais
tout.
C'est parce que je suis contente de te voir, c'est pour ça. Mais est-ce qu'il va revenir, oui ou non? Il a dit que ça ne tentait pas, mais est-ce qu'il va pouvoir résister?
Il a dit que ça ne tentait pas, mais c'était l'endroit où il brillait de tous ses feux. Il était bien là-dedans, il avait 72 millions d'abonnés, il faisait la pluie et le beau temps. C'est là qu'il y avait plus d'informations, de déclarations présidentielles sur Twitter qu'à la Maison-Blanche par les voies officielles. Et donc, pour lui, ça a été une énorme frustration, en plus d'être banni de Facebook. Mm-hmm. Alors, bon, premièrement, là, depuis, il a dit non, moi, j'ai plus besoin de ça parce que...
Il est sur son propre réseau social qui s'appelle Truth.
Truth Social.
Ah, Truth Social, c'est ça.
Mais ça ne marche pas du tout, cette affaire-là. C'est une catastrophe technologique et de popularité. Mais évidemment, c'est son truc. Alors, il n'est pas pour dire, mm-hmm. je vais l'abandonner, je ne bougerai pas, j'arrive. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est vraiment... Il y a vraiment un débat à avoir sur c'est quoi la limite. Mm-hmm. Parce que c'est pas le premier amendement pour rien dans la Constitution américaine, hein, la liberté d'expression. C'est absolu. Il n'y a aucun pays, probablement, où ça...
Où c'est plus sacré que ça.
Oui. Il y a eu des défilés du Ku Klux Klan qui ont été permis dans les quartiers noirs déjà au nom de la liberté d'expression.
OK, bien, ça
Alors,
va loin.
Ça va très loin.
Donc, un homme comme Donald Trump a été carrément banni, censuré.
Exact.
On peut le dire comme ça.
En même temps, il y a 3 semaines, Barack Obama disait que les réseaux sociaux non contrôlés, c'est la plus grande menace à la démocratie à l'heure actuelle.
Okay.
En disant que c'est des moyens d'infiltration. Il y a eu des opérations, comme tu sais, par la Russie et par d'autres forces pour déstabiliser, pour influencer des élections. Donc, on met où la limite et comment on gère ça? Alors, Twitter... Pendant des semaines et des mois, quand Trump faisait des affirmations, disait ben ça c'est pas prouvé, ça c'est pas exact, mais c'était juste il laissait publier
les avertissements de Twitter à la suite des
tweets,
propos de Trump. Oui.
Mais là, quand il y a eu l'insurrection du 6, là ils ont dit que ça va trop loin. Ça, c'est comme des encouragements à renverser le gouvernement.
Oui.
On ne peut pas laisser passer ça.
Tellement. Mais donc, Elon Musk, comment il défend cette idée de ramener Trump?
En disant d'abord, c'est inutile, ça n'a rien donné. Il y a eu toutes les tribunes pour dire les mêmes choses ailleurs. Donc, votre projet d'avoir une meilleure police du free speech, bien, ça n'a pas marché. Mm-hmm. Deuxièmement, l'idée même de la liberté d'expression, c'est que les idées se confrontent et les moins bonnes sont finalement rejetées. Mmh. Et donc, il faut laisser passer ça. Et là, ça se discute. Par contre, on apprenait en même temps qu'un responsable, un commissaire européen, parce que les Européens vont faire une loi pour forcer les réseaux sociaux à avoir un meilleur contrôle de leur contenu.
Okay.
Et ce commissaire-là a dit, Elon Musk m'a dit qu'il n'y avait pas de problème avec ça. Parce qu'Elon Musk a dit, les lois s'appliquent. Et donc, il faut... C'est pas un endroit où les lois s'appliqueront pas, mais moi, je suis un absolutiste de la liberté d'expression.
Mais donc, ça, c'est contradictoire, là, s'il se conforme aux règles européennes là, et qu'il permet le retour de Trump.
Bien, là, aux États-Unis, c'est une loi. Puis c'est un autre cadre légal en Europe. Mais, Noémie, on parle beaucoup de tout ça, là, mais c'est même pas sûr qu'Elon Musk ait le montage financier pour l'acheter,
c'est
Twitter.
C'est pas fait. En tout cas, si ça se fait, ça serait dans quelques mois. Merci, Yves.
À bientôt.
À bientôt. Depuis dimanche, un petit rorqual se promène dans le fleuve Saint-Laurent à Montréal. C'est la deuxième baleine à se frayer un chemin jusqu'ici en 2 ans. Notre collègue Fanny Lachance-Paquette est partie à sa recherche cet après-midi. Bonsoir, Fanny.
Bonsoir, Noémie.
Alors, tu l'as trouvée, la petite baleine, tout près de l'île Sainte-Hélène. Est-ce qu'on sait comment et pourquoi elle s'est rendue jusque chez nous?
Bien, on a peu d'informations officielles pour le moment de ce qui a amené cette baleine-là à se retrouver ici. Ce qu'on sait, c'est que c'est un petit rorqual. Et j'en ai discuté avec les gens du réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Et on a quand même quelques hypothèses pour expliquer comment on s'est retrouvé jusqu'ici. Bon, il faut dire que c'est assez rare qu'on monte aussi haut. Les baleines, habituellement, restent plutôt là, dans le parc maritime Saguenay-Saint-Laurent. Donc, habituellement, on ne les voit pas plus haut que Tadoussac. Ça arrive à l'occasion qu'il y en a quelques-unes qui remontent plus haut. Mais là, on parle de 400 km plus haut. Alors, c'est inhabituel. Parmi les hypothèses, ce qu'on a, bien, c'est le fait que ce soit une jeune baleine. Alors, peut-être qu'elle s'est aventurée parce qu'elle était inexpérimentée. Peut-être aussi qu'elle a suivi un banc de poissons. Ça fait partie des hypothèses. Mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est que cette baleine-là devra retourner d'où elle vient par ses propres moyens parce qu'il n'y aura pas d'opération de sauvetage. Voici pourquoi.
Quand un animal est dans une situation induite par une cause humaine directe, par exemple, un animal qui se prend dans un câble ou dans un filet de pêcheur, ça, il y a une responsabilité humaine. Et dans ce cas-là, on déploie des efforts considérables parfois pour déprendre l'animal. Mais dans les cas où c'est un phénomène naturel, et c'est ce qu'on observe présentement, on laisse la nature suivre son cours.
Et Fanny, le rorqual attire beaucoup de curieux.
On en a croisé bien des gens aujourd'hui sur l'île Sainte-Hélène qui nous demandaient où était la baleine. Des gens curieux, des photographes aussi amateurs. Et ce qu'on a demandé à ces gens-là, c'est est-ce que vous trouvez ça excitant de savoir qu'il y a une baleine qui s'est retrouvée ici ou c'est plutôt inquiétant de savoir qu'elle est rendue aussi loin?
C'est un peu triste quand même. C'est comme un peu mitigé. On est content de voir la baleine, mais en même temps, on sait comment ça s'est terminé la dernière fois, donc on se doute que ça risque de se terminer de la même manière.
Donc, c'est pas du tout inquiétant. Puis c'est normal qu'elle est jeune, qu'elle veut explorer. Puis on va espérer qu'elle se fait pas frapper par les bateaux ou les sidoux.
Bien, c'est curieux, surtout que ça fait 2 fois en 2 ans que ça arrive. Il y a du questionnement à avoir sur les changements climatiques par rapport à ça.
Et pour l'instant, Noémie, elle a l'air en bonne santé, cette baleine-là. C'est du moins ce que nous disent les gens du réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Mais il faudra qu'elle retourne rapidement d'où elle vient parce que ce ne sont pas des animaux, évidemment, qui sont faits pour vivre en eau douce. Il y a toutes sortes de maladies qu'elles peuvent développer à ce moment-là. Alors, on espère qu'elle retourne rapidement. Et d'ici là, on dit aux gens qui ont des embarcations nautiques de ne pas s'aventurer près de la baleine aux alentours de l'île Sainte-Hélène.
Merci beaucoup, Fanny.
Merci.
Le sort du projet d'exportation d'électricité d'Hydro-Québec vers le Massachusetts se trouve entre les mains de la Cour suprême du Maine. Les défenseurs et les opposants ont été entendus aujourd'hui dans le but de faire invalider les résultats du référendum tenu en novembre. Les citoyens du Maine avaient rejeté à près de 60 % le projet de ligne électrique qui doit passer sur leur territoire. Les promoteurs du projet, la Central Maine Power et Hydro-Québec, jugent que le référendum était inconstitutionnel. Hydro-Québec pourrait perdre jusqu'à 10 milliards de revenus sur 20 ans. Le témoignage d'une intervenante de la DPJ de l'Estrie qui s'est fait mettre des bâtons dans les roues alors qu'elle souhaitait devenir famille d'accueil pour un enfant qu'elle supervisait a fait beaucoup réagir. On vous présente ce soir un nouveau volet du dossier. Alexandra Paré a parlé à une intervenante de la Montérégie qui a pu devenir famille d'accueil, même si le CIUS refuse de confirmer la pratique.
Il n'y a pas de doute, les assouplissements pour combler le manque de familles d'accueil criant au Québec sont gérés de façon bien différente d'un CIUS à l'autre. Bien qu'une dizaine d'intervenantes de la Montérégie qui m'a confirmé être famille d'accueil de proximité pour un jeune du même territoire, bien le CIUS de la Montérégie-S dit ne pas procéder à cette façon de faire. On me répond qu'afin d'éviter tout conflit d'intérêts potentiel, bien les employés, intervenants et gestionnaires qui œuvrent pour la protection de la jeunesse en Montérégie, bien, ne sont pas autorisés à devenir une ressource de type familial. Pourtant, ce n'est pas ce que nous dit cette femme qui a témoigné sous le couvert de l'anonymat.
Un enfant, ça se pose pas la question où ça va aller à 18 ans. Mais cet enfant-là, quand il est arrivé chez nous, dans ma piscine, après une demi-heure, c'est ça qu'il m'a posé comme question. Il m'a dit, « Mais est-ce que tu vas accueillir d'autres enfants? » J'ai dit, « Non, il y a quelque chose que tu n'as pas compris, Minou. Moi, je ne suis pas famille d'accueil puis je n'accueille pas des enfants de la DPJ. C'est toi que je vais accueillir chez moi. C'est pas la même chose. » Il avait besoin d'entendre ça, cet enfant-là. Parce que, bien, dans sa vie, ça y est pas arrivé souvent d'être choisi. Puis là, je l'ai choisi. Puis ce qu'on lui a dit, c'est « Ta place va être ici. » Fait que je pense que le fait que j'aie été son intervenante et que je l'ai jamais oublié, puis que je l'ai choisi, bien, j'ai pas la prétention de dire que j'ai guéri des blessures, mais peut-être que j'ai mis un petit bond, puis il méritait amplement.
Et au niveau de la Fédération, ce qu'on dit, c'est « Pourquoi pas? » À condition que les critères que ministériels, à condition que tout ce qui est contrôle qualité, les interventions, le suivi, tout ça, bien, soit le même que n'importe quelle famille d'accueil. Parce que ce n'est pas parce qu'on est intervenante qu'on est une bonne famille d'accueil. C'est au même titre, ils disent le cordonnier mal chaussé. L'enjeu qui m'inquiète, c'est de dire, lorsqu'on a un enfant qui est placé hors région, dans une autre région, par souci d'équité, éviter que l'intervenant travaille pour le même CIS qui l'évalue, bien, que l'intervenant soit d'une autre région, en fait, pourrait créer des délais considérables. On se rappellera que présentement, en plus de l'enjeu des familles d'accueil qui manquent, il manque d'intervenants, il manque de personnel. Ils ont présentement la misère de venir faire le suivi quand on reste 10 minutes dans leur bureau. J'imagine, quand ils vont rester une heure et demie, deux heures, donc pour une rencontre d'une heure avec un coco, on va parler des fois de 4-5 heures de transport, aller-retour. C'est cet enjeu-là qui m'inquiète.
D'emblée, il y a eu une collaboration entre Montérégie puis Montréal. Fait que ça s'est fait honnêtement sur une période quand même significative, mais sans accroc. Puis je pense que la Montérégie devrait être fière de ça. Parce que ça s'appelle sortir du cadre. Arrêter de s'enfarger dans des limites administratives puis penser humainement. Ne faites autrement pour un magnifique résultat. Mais je pense que ça devrait se faire ailleurs aussi parce que je pense que c'est une magnifique réussite.
Des victimes alléguées de l'ancien orphelinat du Mont-Diouville à Québec se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale aujourd'hui. Elles dénoncent le manque de sensibilité du gouvernement Legault à leur endroit. Les manifestants reprochent au gouvernement de ralentir l'action collective intentée par plus de 500 anciens pensionnaires de l'orphelinat. Phil Couture est allé à leur rencontre.
Moi, je veux pas rien savoir d'aucune des compensations jusqu'à la fin de mes jours. Je veux maudire ces gens-là jusqu'à ma tombe.
On a vécu des agressions sauvages dans les mêmes moments. On s'est évadés ensemble, moi et Christian. On s'est évadés déjà en T-shirt, en running shoe l'hiver. À moins 20, on s'est fait arrêter par la police après deux jours dehors à manger dans les poubelles du poulet frit Kentucky. Puis on disait aux policiers, si vous nous ramenez là-bas, ils vont nous battre. On était terrorisés. Puis ils disaient, on n'a pas le choix. C'est eux qui ont votre garde. On va vous ramener là-bas quand même. Le lendemain, on sortait de l'infirmerie, poqués tous les deux, parce qu'on t'avait mangé une volée terrible.
Quel âge vous aviez?
12 ans. Puis encore aujourd'hui, je suis encore à rencontrer des thérapeutes pour ça. Je vais en avoir pour le reste de mes jours à vivre avec ces blessures-là.
Il était 2 ans au pénitencier à l'âge de 72 ans.
Fondamentalement, c'est quoi que vous leur demandez au gouvernement présentement?
Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement s'assoie, reconnaisse ces faits-là, reconnaisse ce qu'on a vécu, fasse amende honorable, et ils s'arrangeront avec les Sœurs de la Charité après. On s'en fout, mais que notre gouvernement se tourne vers les enfants que nous étions les enfants qui marchent vers le Parlement pour leur dire, écoutez, si on avait été vos enfants, vous seriez-vous sur le trottoir aujourd'hui pour parler? Absolument qu'ils y seraient. Mais là, ils sont enfermés derrière les murs. Ils ferment, font la sourde oreille. Il y a seulement le député Sol Zanetti de Québec solidaire qui est sorti aujourd'hui. On lui a demandé d'être notre voix à l'Assemblée nationale pour apporter ces propos-là, ces faits-là.
Ce qui est demandé, puis moi, ce que j'entends, puis ce que je relais comme demande aujourd'hui, là, c'est pas que le gouvernement interfère dans le processus judiciaire, c'est pas que le gouvernement interfère auprès des juges. C'est que le gouvernement, comme parti défendresse, il y a une attitude qui soit cohérente avec son discours en faveur des victimes d'agressions sexuelles, qu'il y ait une attitude dans laquelle il s'assure là, que ces gens-là soient entendus puis que ça, leur souffrance là, soit... On y applique un baume le plus rapidement possible. Dans toutes les démarches avec le nouveau tribunal sur les violences sexuelles, vous aviez dit que vous preniez le côté des victimes, mais là, c'est le temps de le faire jusqu'au bout.
Là, on a des agressions continuelles du gouvernement, de leurs avocats qui sont devant nous dans un écran Zoom où on est complètement absent. On est dans des petites bulles avec nos initiales dedans. Mais les 600 victimes, chacun chez eux, à recevoir ce mépris-là qui nie, qui minimise, qui tente de nous discréditer, c'est complètement absurde.
On saura ce soir si le Canadien de Montréal aura le premier choix lors du prochain repêchage qui se tiendra au Centre Bell en juillet. Et ce serait une consolation après avoir terminé la saison au tout dernier rang de la Ligue. On en discute avec Andréanne Barbeau et Ray Lalonde. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir, Noémie.
Merci d'être là. Qu'est-ce qui va se passer exactement ce soir? Ça commence à 6h30. Ouais, comment ça va marcher?
Les équipes qui ne se sont pas classées pour les séries sont éligibles à cette loterie qui permet de déterminer qui va choisir au premier rang. Évidemment, il y a un enjeu. Le premier rang, le premier joueur disponible est forcément un peu meilleur que le 16e ou le 17e.
C'est supposé, en tout cas.
Ouais. Ouais. Fait que ça donne un avantage, puis ce soir, on va le déterminer. Puis pourquoi c'est une loterie? C'est parce qu'on veut éviter que les équipes perdent tout au long de la saison en vue de sécuriser le premier rang. Autrement dit, ouais, perdre un peu cette crédibilité-là puis cette authenticité-là.
Faire produit exprès de perdre, oui, c'est totalement antisportif. Mais là, ça veut dire que le premier choix, il y a vraiment une signification, il y a vraiment une grande différence entre l'éventuel premier et l'éventuel deuxième choix?
Peut-être pas cette année. Il y a des années où c'est plus clair quand même. Il y a un Connor McDavid dans un repêchage. Puis c'est toujours un peu le comparatif ingrat en ce moment. On se dit, ah, il n'y a pas de Connor McDavid cette année. Oui, il n'y en a pas souvent des Connor McDavid. Ouais, Shane Wright est le premier choix... Je vais dire ultime, pas mal ultime en ce moment parce qu'il ne fait pas l'unanimité, mais j'ai l'impression que ça fait trop longtemps qu'on l'a vu jouer. Ça fait déjà quelques années qu'on sait qu'il s'en vient et il offre de belles performances. Lui, d'ailleurs, il joue ce soir hein, dans la Ligue de l'Ontario. 15 minutes avant son match de hockey, là, il y a la loterie. On pense que ça va déterminer l'équipe pour laquelle il va jouer dans les prochaines années.
Puis tu sais, Noémie, c'était un joueur qu'à l'âge de 15 ans, on l'avait classé comme exceptionnel. Ça prend une autorisation spéciale pour être qualifié exceptionnel à 15 ans. Normalement, les jeunes rentrent dans le junior majeur à 16 ans. Alors, lui, il fait partie des joueurs qu'on avait de grandes attentes. Il est très bon, mais comme dit Andréanne, c'est pas un joueur générationnel pour le moment.
Donc, il n'y a pas de joueurs cette année qui ont vraiment le potentiel de changer la destinée du Canadien?
Éventuellement, peut-être, mais pas dans le court terme, pas la saison prochaine. Donc, c'est là que le repêchage devient important, oui, parce que le premier choix, c'est le premier choix, mais le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, ce seront aussi de bons joueurs. Quand tu repêches dans les trois premiers, c'est rare que tu te trompes.
Bon,
tu vas tomber sur un bon joueur. Après ça, c'est de savoir comment tu vas le développer. Ça, c'est crucial. Et comment tu vas l'intégrer dans ton système aussi.
Alors, petit rappel historique. La dernière fois que le Canadien a repêché au premier rang, c'est en 1980. Mm-hmm. Et il a choisi Doug Wickenheiser, alors que Denis Savard était disponible.
Mais donc,
c'est pas parce que tu as le premier choix que tu fais le meilleur choix.
Exact. Puis Wickenheiser, à l'époque, faisait partie des besoins des Canadiens. Il jouait pour les Pats d'Origina. C'était un grand joueur de centre. Mais c'était pas peut-être le même talent brut que Denis Savard, un Montréalais en plus.
Ouais.
Alors, Canadien, à ce moment-là, a fait le mauvais choix.
Bon, parlant de Montréalais, de Québécois, c'est une préoccupation, on le sait, du premier ministre François Legault, de voir plus de Québécois jouer dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il y a des Québécois qui ont un fort potentiel d'être repêchés tôt éventuellement là, au mois de juillet?
Nathan Gaucher des Remparts de Québec, c'est le premier nom qui me vient en tête. On l'a vu dans plusieurs événements, là, où les fameux showcases où on met les joueurs en vitrine. Donc, c'est sûr que c'en est un. C'en est un qui devrait sortir tôt. Mais encore là, on n'est pas dans un repêchage où on se dit « Ah, il va sortir dans le top 5. »
Il n'y a pas de Guy Lafleur cette année-là.
Non,
lui aussi avait été choisi au premier rang.
Ça non plus, il n'y en a pas souvent des Guy
Lafleur. Bien non, c'est clair. Et là, il y a une prochaine étape, 29 mai au 4 juin, des tests d'évaluation qui vont se dérouler à Buffalo. Mm-hmm. Ça, c'est avant le repêchage. Donc, c'est une espèce de compétition entre futurs recrues?
Non, c'est non. Des tests pour évaluer les capacités physiques, l'agilité, la rapidité, l'exécution et tout ça pour compléter l'évaluation avant de s'engager vers le choix. Okay. On les a vus jouer sur la glace depuis longtemps, depuis 12-13 ans qu'on les observe comme joueurs bantam. Là, on arrive au moment où, devant nos yeux, là, physiquement, ils ont de l'air de quoi, puis est-ce que ça vaut la peine d'investir un joueur pêcheur?
Bon, donc ça commence à 6h30. Le Canadien a une chance sur 5 à peu près, ou une chance sur 4, mm-hmm. selon les statisticiens, de mm-hmm. repêcher au premier choix. Qu'est-ce que vous surveillez d'autre dans le monde du sport? Nouvelle pour Tom Brady?
Bien, Tom Brady vient s'entendre avec Fox Sports. Dès la fin de sa carrière comme corps arrière des Buccaneers, il va joindre les rangs des analystes pour une entente de 10 ans, 375 millions de dollars. Wow! Il vient d'amener la barre à un niveau incroyable, mais c'est du vrai Tom Brady.
C'est du vrai Tom Brady qui a annoncé qu'il sortait de sa retraite, puis là, sa pré-retraite est prévue. Tennis, tournoi de Rome, plusieurs Canadiens qui poursuivent.
Félix Auger-Aliassime, Shapovalov passe en huitième de finale chez les femmes Fernandez et puis Andreescu qui passe au deuxième tour. Donc, tout va bien pour nos Canadiens. On continue de les surveiller. C'est la saison de terre battue qui est amorcée, donc en route vers Roland-Garros, c'est toujours très excitant.
Bien oui, à tout stade de la saison, c'est excitant. Merci d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
On se reprend bientôt. Le Cirque du Soleil retrouve son public montréalais pour la première fois en 3 ans. Il plante son chapiteau dans le Vieux-Port pour présenter Cousa jusqu'au 14 août. C'est une version revampée du spectacle créé il y a 15 ans. Voici ce qu'a préparé notre collègue Théa Ribaud.
C'est tellement spécial de revenir à la maison. On est à côté du fleuve Saint-Laurent. On voit la grande roue, puis d'avoir le chapiteau au cœur du Vieux-Port. On pourrait pas demander mieux.
Être ici, c'est merveilleux. Être à Montréal, c'est encore plus magique. Je pense que toutes les personnes qui viennent du Québec ont envie de pouvoir faire le spectacle ici.
On est à la maison. Il n'y a rien de plus chaleureux, il n'y a rien de plus spécial pour nous de jouer ici à Montréal. Donc, c'est vraiment un rêve qui se réalise.
Malheureusement, on va être obligé de parler des 3 dernières années qui ont dû être difficiles. Comment vous avez vécu ça?
Ça a été extrêmement difficile. Personnellement, j'ai jamais été prêt à arrêter tout ça. On peut pas arrêter une passion comme ça.
Le rôle de l'innocent, c'est vraiment c'est son histoire qui grandit dans le spectacle, qui cherche sa place dans le monde. Donc vraiment, moi, chercher ma place dans le monde à l'extérieur du cirque, c'est vraiment ce que j'ai vécu pendant la pandémie. Donc de pouvoir venir interpréter mon histoire ici sur la scène, c'est vraiment ce qu'il y a le plus beau.
Si les gens ont déjà vu Cousa auparavant, ils vont pouvoir revenir le voir avec un nouvel œil, un nouvel angle.
Vraiment, on a travaillé à renforcer le spectacle le plus possible, de le moderniser des façons qu'on pouvait. Le spectacle qui a été créé en 2007. Donc, vraiment, à chaque année, on essaie d'ajouter des petites touches qui le modernisent un petit peu. Puis c'est exactement ce qu'on a fait après la pandémie.
Il y a vraiment du changement. Donc, si vous avez déjà vu le spectacle, vous pouvez y revenir. Wow, il y a du nouveau.
Michel.
Bonsoir, Noémie.
Moment historique au Parlement britannique
oui.
aujourd'hui.
Le prince Charles qui a remplacé pour la première fois la reine Élisabeth II pour lire le discours du trône au Parlement. Sa mère de 96 ans n'a pas pu s'y rendre pour toujours des raisons de santé. Là, ses médecins qui ne le conseillaient pas. La dernière apparition publique de la reine remonte au service commémoratif du 29 mars pour son défunt mari qui est décédé l'an dernier. C'était la troisième fois en 70 ans de règne que Élisabeth II ne pouvait pas assister à cet événement-là.
Bon, elle a quand même été assidue. Hein? Ce soir, au fil 22 heures, sur la demande des partis d'opposition que le gouvernement Legault compense les camionneurs artisans qui souffrent énormément.
Énormément. On va revenir là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée de les compenser? On aura l'avis de notre analyste Luc Ferrandez. Et on surveille également ce soir la loterie du repêchage dans la LNH. Puis on a déjà une prédiction.
Ah!
Ouais, regarde ça. Ça, c'est le Oli, le chien du président et chef de la direction du Canadien, Jeff Molson, qui a demandé donc à son chien de choisir dans une piscine de balles la position du Canadien. Bien, il a sorti quoi? Quelle position? Le numéro 1. Ça devrait être donc la première position, on verra.
Bon, on suit ça. Merci, Michel. Merci à vous d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. On se retrouve demain à 17h.